Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler. La question de l'auditeur sera sur la motivation, mais on va également parler de santé par les sols, donc les pesticides, etc. On va parler de surpoids et d'obésité. On va parler de cancer de la prostate, mais vous allez voir que c'est. Enfin, il y a toujours un lien. Hein, j'essaye toujours de tirer des lignes droites ou des lignes courbées par rapport au style de vie fitness et tout ça. Et déjà, j'aimerais, avant de démarrer, vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez, ou avis, etc., sur les plateformes de podcast. Je me rends compte que j'ai des retours de personnes un petit peu de tous les horizons, hein, déjà des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et ça me fait toujours très plaisir, surtout de voir dans quelle situation, vous écoutez les podcasts, ceux qui m'envoient en story, les lieux dans lesquels ils m'écoutent, que ça soit par exemple sur leur tapis de cardio, que ça soit pendant leur balade, pendant leurs abdos, en fin de séance, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir et merci beaucoup, parce que je n'ai pas toujours des réponses à vous donner, par exemple sur les plateformes d'avis, sur les endroits où vous pouvez laisser des avis, par exemple sur Apple Podcast, je n'ai pas la possibilité de vous répondre. Donc je vous réponds ici. Merci beaucoup. Je lis tous les avis. Dès que je les vois, je les lis. Ça me fait toujours très plaisir. Donc merci. Voilà. Bon, on commence le podcast par rapport au. Alors, juste avant de démarrer, comme d'habitude, vous le savez, je parle de ce que j'ai produit pour les VIP le week-end. Alors, ce week-end est sorti une vidéo qui s'appelle Microbiote chez le sportif. C'est pas un condensé de vieilles choses, etc. Non, au contraire, c'est un rapport moderne, récent plutôt, qui vient de sortir de plusieurs chercheurs, hein, qui ont vraiment étudié le microbiote, particulièrement chez le sportif, pour le sportif, donc sportif d'endurance ou sportif de force, enfin on va dire plutôt sportif, activité intense, activité modérée, et de voir un petit peu les modifications qu'il peut y avoir, les bienfaits et les inconvénients, parce que vous allez voir qu'il y a notamment un nutriment qui pose problème, qui peut poser problème si on fait pas correctement les choses. Et donc voilà, ça apporte un petit peu de progrès dans la connaissance par rapport à ça. Le microbiote qui a été beaucoup discuté, on en a beaucoup discuté pendant une période, vous avez bien vu dans les médias, le ventre, le deuxième cerveau, etc. Aujourd'hui, ça se calme un petit peu, mais il faut savoir une chose, c'est que la recherche, elle, ne se calme pas par rapport à ça, et qu'il y a bel et bien des choses qui sortent, qui sont découvertes, et du coup, c'est important d'en discuter, c'est important de mettre un petit peu à jour ses connaissances, parce qu'il y a beaucoup de nutrition à l'intérieur de ça, également d'activité physique, bien sûr, mais il y a un gros facteur nutritionnel, donc du coup c'était important pour moi d'en parler avec vous. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description de cet épisode, donc dans les notes, je sais pas comment, sur quelle plateforme vous m'écoutez, mais vous aurez le lien. Ça s'appelle Microbiote et Sport, ou Microbiote chez le sportif. Vous cliquez, vous accédez, vous devenez VIP, et vous avez accès à l'intégralité du Netflix version fitness que je vous propose. Voilà. Bon, avant de démarrer, les trois sujets que je vais aborder là rapidement, on va prendre notre temps, mais j'aime pas trop parce qu'ils sont un peu pessimistes, négatifs. On est quand même dans un, là actuellement, vous avez assez de pessimisme dans votre quotidien, j'imagine. Je vais essayer de prendre le discours, enfin en tout cas les actus que j'ai récupérés, de les prendre froidement. Et puis, on va essayer d'en discuter un peu ensemble. Donc, la première chose, c'est les Français fortement exposés aux métaux lourds. Bon. Pour expliquer ces résultats, Santé publique France pointe le tabagisme et la consommation de poissons et fruits de mer. Merde. Pourtant, par rapport à l'ENNS 2006-2007, les habitudes alimentaires n'ont pas changé. Soulève Clémence Filol, qui est responsable de l'unité de surveillance des expositions. Plusieurs facteurs peuvent jouer sur cette augmentation, comme le fort passé industriel de la France, envisage-t-elle. Bon, moi, ce que je vois ici, évidemment, il y a quelque chose de problématique. Et vous allez voir là où moi, il y a deux choses que je pointe là-dedans. La première chose, c'est qu'autour de moi, je n'ai pas l'impression que les gens mangent plus de poissons ou de fruits de mer. Globalement, je n'ai pas l'impression qu'ils en mangent tout court. Le poisson et les fruits de mer dans l'alimentation des gens moyens est assez misérable. Bon, est-ce que il y a de plus en plus de personnes qui mangent des sushis? Peut-être, mais est-ce que c'est ça qui fait la grande différence? Je sais pas. Enfin, je veux dire, il faut pas l'oublier. Les sushis sont devenus à la mode. Ça arrivait assez récemment et tout ça. Mais bon, bref. Moi, ce que je vois quand même, c'est que, comme elle dit Clémence Filol, plusieurs facteurs peuvent jouer sur cette augmentation, etc., etc. Et le fort passé industriel de la France. Bon, est-ce que justement... Alors, il parle des terres. Les terres sont contaminées. Donc, les terres, l'eau également est contaminée. Donc, ce qui veut dire que les animaux terrestres qui boivent, qui mangent, etc., donc ce qu'on leur donne, eh ben, eux aussi, ils peuvent être sujets à cette exposition aux métaux lourds. Donc, du coup, nous, on va les retrouver quand on va manger la viande, quand on va manger... Certainement aussi des végétaux. Hein. Il y a certains végétaux qui doivent les stocker. Donc, les pesticides, c'est pas... Enfin, les pesticides... Les métaux lourds, c'est pas quelque chose. Alors, on en trouve beaucoup dans les poissons. En fait, dans les trucs, le foie, etc. Les trucs très gras et tout, parce que ça, forcément, ça se stocke un petit peu là-dedans. Mais étant donné qu'on ne repère pas, enfin, je sais pas vous, ce que vous pouvez constater là-dessus, mais il n'y a pas d'augmentation de vous n'avez pas vu un fort effet de mode vers, par exemple, les moules. Non, j'en vois pas moi. Mais le deuxième problème que je note là-dedans, c'est que qu'est-ce que ça peut conduire comme comportement ? Sur les sols français, on est fortement exposé aux métaux lourds. Donc ça veut dire que les produits que nous produisons, donc la création de nos terres, entre guillemets, ce qu'on tire de nos terres, ce qu'on consommer local... Et ce serait quoi enrichi en métaux lourds, on serait quand même... est-ce que vous voyez là où je veux en venir dans le discours? Il y a une problématique. D'un côté, on veut encourager la production locale, d'aller se servir au poissonnier qui va pêcher dans les mers du coin, etc. Enfin, si on habite proche de la mer ou de l'océan, j'en sais rien, mais... Donc on veut encourager ça, et d'un autre côté, on nous balance que les Français sont fortement exposés aux métaux lourds, la consommation de poissons et de fruits de mer. Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que une personne aujourd'hui qui dirait « écoutez, moi, les produits en France, ils sont un peu trop saturés en métaux lourds, donc je vais prendre des poissons qui viennent d'autres pays ?» Donc vous voyez bien la problématique là. Est-ce qu'on parle au niveau économique, au niveau on utilise, et puis même écologique, parce que faire importer des produits, l'impact environnemental est important. Ou est-ce qu'on choisit sa propre santé, on va aller choisir des aliments plus sains, mais qu'on fait importer. Donc là, lors d'un débat, comment on fait? Les pro-écolos vont défendre les produits locaux. Et les pro-santé vont défendre les produits de meilleure qualité. Donc, du coup, c'est un débat qui ne peut pas... Enfin, voilà. Et alors que une des solutions... Enfin, voilà, comme elle raconte Clémence Filol, ou Filol, je ne sais pas comment on dit, le fort passé industriel de la France, donc est-ce qu'on n'a pas un peu défoncé nos terres et nos mers et nos océans et qu'aujourd'hui, on en paye un petit peu la facture. Donc, la problématique, c'est quoi ? C'est que les taux de la présence de métaux lourds chez l'être humain, chez le français, augmente. Et en fait, on est fortement exposé à ça. Donc, il y a quand même, moi, je trouve, de la... Vous savez, quand on... Il y a les gens qui prétendent toujours avoir des grandes solutions ou des solutions simples à des problèmes très compliqués. Moi, typiquement, ça, je trouve que c'est un problème relativement compliqué à résoudre. Est-ce que c'est pas légitime de vouloir s'alimenter avec des choses saines? Et si on les trouve plus en France, comment on fait, en fait? Donc, il y a des enjeux de ce côté-là, je trouve. Hein. Il y a des problématiques. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur les... Alors, il parle aussi du tabagisme, mais le tabagisme a plutôt tendance à réduire. Ça, c'est les chiffres officiels, ça a plutôt tendance à réduire. Donc, si la consommation de poissons et de fruits de mer n'augmente pas, que le tabagisme réduit, est-ce qu'on peut remettre en cause ces deux facteurs, en fait ? Donc, voilà, je vous laisse un petit peu cogiter sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est quand même... à mon avis, ça va au-delà des poissons et des fruits de mer. Je pense que l'alimentation globalement, l'eau également, on est un peu micro-pollué. Et c'est certainement les conséquences, comme ils disent, du fort passé industriel de la France, des mauvaises habitudes et tout ça. Mais en fait, ça fait un pont, et c'est pour ça que j'ai pris également ce deuxième article-là qu'on va voir tout de suite. Ça fait un pont avec l'article suivant qui est « Les travailleurs exposés aux pesticides, un lien avec le cancer de la prostate ». Donc, en fait, ils ont pris, vous savez, les agriculteurs et tout, enfin, ceux qui répandent les pesticides pour leur production, pour manger, pour survivre, hein, pour produire. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais on peut faire pousser sans pesticides. Il y en a qui peuvent pas, visiblement. Donc, enfin, qui peuvent pas, qui veulent pas. Enfin, ils ont certainement des raisons à ça. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a des raisons économiques. C'est-à-dire que les gros groupes industriels vont racheter. Par exemple, demain, vous produisez des tomates, admettons. Je dis, voilà. Demain, on vous dit, nous, vos tomates, enfin, un grand groupe industriel, vous savez, les supermarchés, vous disent, moi, tes tomates, elles m'intéressent. Par contre, voilà, moi, tes tomates, l'équivalent chez le concurrent, je les ai à X euros le kilo, donc tu peux pas les avoir plus chers, quoi, parce que sinon, je viendrai pas te chercher. Bon, le gars, il a pas 36 millions de clients, il en a un bon qui est sous la main, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'aligne. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour s'aligner après? Forcément, il faut qu'il produise beaucoup pour pouvoir manger, parce que on lui achète à un prix dérisoire. Donc, on pointe directement du doigt l'agriculteur ou le paysan, entre guillemets. Moi, j'aime bien dire ça comme ça. Mais finalement, c'est pas lui. Lui, il est pas responsable de ça. En fait, on lui impose un prix qui ne lui permet pas de produire en plus petite quantité et de meilleure qualité, puisqu'en fait, lui, il est obligé d'en vendre beaucoup pour manger. Pour lui, manger, pour payer ses crédits, ses tracteurs, son espace d'activité, etc. Et il faut que sa production, qui dit beaucoup, dit il va y avoir des bestioles, des parasites, des machins et tout. Donc c'est un cercle un peu vicieux. Et malheureusement, il y a un autre point négatif, c'est que ces travailleurs-là sont exposés aux pesticides, puisqu'ils les répandent, et donc il y a des problèmes pour leur santé. Alors longtemps on disait non, l'expertise de l'ANSES conclut à un lien probable entre exposition aux pesticides et à la survenue du cancer de la prostate chez ces personnes-là. Donc cancer de la prostate, un des cancers les plus négligés, ça arrive tard, on en parle peu, on en parle, mais c'est marginal par rapport aux autres types de cancers, on en parle assez peu, et donc du coup, y a un lien entre les deux. Bon, cancer de la prostate, pour rappel, il y a quand même un facteur hormonal là-dedans, donc pesticides, du coup, lien avec les hormones. On sait que dans le monde du fitness, dans un bon style de vie et tout, on essaye quand même d'avoir ses hormones qui fonctionnent correctement, sa production hormonale qui fonctionne correctement. Alors pas forcément à la hausse, on n'essaye pas de se doper naturellement avec des techniques X ou Y, puisque de toute façon ça n'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire avec des bonnes habitudes de vie, c'est tenter d'avoir un niveau satisfaisant et normal par rapport à sa physiologie de base, mais de se doper avec du cardio-hit ou des choses comme ça, c'est, en fait, on peut pas parler d'augmentation, on va dire supra-physiologique, quoi. C'est juste pour amener ces taux à la normale, quoi. Parce qu'on les a plutôt bas avec un mode de vie classique. Donc un nombre, je reprends les citations, un nombre important de secteurs, professions et travaux ont été identifiés comme les activités agricoles, toute culture et type d'élevage, les secteurs de la lutte antiparasitaire, de la protection du bois, donc messieurs les gardes forestiers, messieurs ou mesdames, gardes forestiers, du jardinage et paysagistes, donc paysagisme plutôt, donc toutes les personnes qui entretiennent les espaces verts et tout ça, les professions liées aux soins des animaux, à l'entretien de la voirie, la filière des déchets, le traitement des eaux, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même un large panel de métiers qui sont touchés par les pesticides, alors qu'on n'y penserait pas forcément. Alors que effectivement, le traitement des eaux... Alors, traitement des eaux, la problématique, c'est le traitement des eaux, c'est aussi l'eau qu'on retrouve dans le robinet. Hein. Donc il y a... Vous voyez, en fait, la problématique... Donc si ça augmente, comme on voyait la présence de métaux lourds et tout ça, mais également de pesticides, est-ce que c'est pas dans l'eau de boisson? puisqu'ils n'arrivent pas à trouver de lien probant avec le tabagisme ou avec la consommation de poissons et de fruits de mer. Est-ce que ça ne serait pas lié plutôt à quelque chose que quasiment tout le monde consomme, directement ou indirectement, qui est l'eau ? L'eau de l'eau, tout simplement, l'eau qu'il y a au robinet. Bon, j'en sais rien, hein, mais si vous voulez avouer ça, ça ferait un tel scandale. Parce que l'eau, c'est quoi ? L'eau, c'est le bain de votre enfant, c'est l'eau de cuisson de votre ibasmati, c'est, enfin, voilà, quoi, c'est l'eau dont on sert pour arroser les légumes et tout. Donc, il y a une problématique de ce côté-là aussi. Bref, je reprends. D'une manière générale, les travailleurs sont exposés à de nombreuses substances pesticides sur une même période, mais aussi tout au long de leur carrière professionnelle. Donc, moi, je recommanderais à ces personnes-là de plutôt s'intéresser sur comment s'armer pour se protéger de ça. Donc, comment s'armer au niveau de l'équipement, de mettre en avant, vous avez le lien, hein, de toute façon, dans les notes du podcast, si vous, c'est votre emploi, enfin, vous travaillez dans ce secteur d'activité-là, dans ces secteurs d'activité-là, donc vous voyez que c'est quand même assez large, vous avez la source, hein, vous cliquez sur le petit truc où il y a marqué source en bas de l'article, là, dans les notes. Et vous pouvez aller voir, l'ANSES, c'est pas n'importe qui, donc vous pouvez en parler aux yeux de votre hiérarchie, au sein de votre hiérarchie, pardon. Et donc du coup, essayer de trouver des solutions pour essayer de se... Je pense qu'aujourd'hui, avant... Enfin, des solutions, peut-être qu'un jour, des solutions existeront pour solutionner ce problème-là en termes global, c'est-à-dire assainissement des terres et tout ça. Pour l'instant, j'ai pas vu l'ombre d'une solution cohérente, hein. Mais en attendant, n'oubliez pas qu'il existe quelque chose qui s'appelle les béquilles, des traitements, des choses... Alors, traitement, n'entendez pas un traitement médicamenteux. Quand je dis un traitement, c'est un traitement peut-être une barrière de protection. Je vais vous donner un cas concret. Quand j'étais carrossier, la soudure ne se faisait pas avec les yeux nus. Comme ça, on ne regardait pas le point de soudure, on ne se grillait pas la rétine, on avait un masque teinté. Donc peut-être qu'un jour, on trouvera des procédés, ça existe déjà, de soudure sans ce flash-là. Donc du coup, on n'aura plus besoin de ces lunettes. Mais en attendant, on utilisait ça pour ne pas se détériorer la vue. Donc il y avait un effet négatif direct, on trouvait un moyen de se protéger pour pouvoir travailler sans problématique. Les cabines de peinture, pareil, je reste dans le domaine de la carrosserie, mais on utilise des masques, etc., pour justement éviter d'avoir de splâtrer les poumons avec des volatiles de peinture, de vernis, de solvant et tout ça. Bref, en attendant de trouver des solutions durables, que le progrès fasse son travail de ce côté-là, je pense qu'il est intéressant, si vous travaillez dans un domaine comme ça, de trouver des solutions pour vous protéger. Donc vous protéger les surfaces, je sais pas. Après, je suis pas là-dedans, je suis hors domaine. Mais à mon sens, moi, je chercherais, si c'était ma profession, de trouver des outils de protection. Voilà. Donc après, à vous de voir. Je vous êtes averti, entre guillemets. Moi, je fais que partager l'information. Parce que ça serait quand même bête de faire... Enfin, encore une fois, il y a toujours un paradoxe. Moi, je suis pro métier physique de plein air et tout, parce que parce que j'ai baigné dedans quand j'étais enfant, parce que j'aime la nature, etc. Et que pour moi, tu mets un avocat surdiplômé en face de moi ou un garde forestier ou quelqu'un qui travaille dans une scierie, eh ben peut-être que ça va en faire sourire quelqu'un, mais je préfère discuter avec... j'aime bien discuter avec tout le monde, mais je préfère avoir à ma table et de discuter avec quelqu'un qui travaille dans les bois, parce que j'adore les bois, j'adore la forêt, j'adore la nature. Bref, c'est mon point de vue. Après, avec l'avocat, j'aurais d'autres sujets à évoquer avec lui, ça serait certainement très intéressant. Mais moi, personnellement, je trouve qu'on a beaucoup trop... mis en lumière, mis en... Vous savez, dans le côté métier classe, métier désirable, etc., des métiers très intellectuels, qui sont réellement des métiers difficiles, hein. Il faut un certain niveau d'études et tout, mais je dis pas qu'il faut les rétrograder, ces métiers-là, en termes de perception aux yeux du grand public. Je veux simplement dire qu'ils peuvent rester à la place où ils sont, mais il faut arrêter de dégrader les métiers que moi je trouve très nobles, en fait, hein, ceux qui entretiennent nos espaces verts. C'est quand même cool de se promener dans sa ville ou dans son village et de tomber sur un espace vert qui est correctement tondu, où les arbres sont bien taillés. Vous travaillez certainement, peut-être pour certains d'entre vous, dans une entreprise où il y a des personnes qui viennent entretenir les espaces verts. C'est fait pour vous, c'est fait pour l'image de la boîte, mais aussi votre confort à vous. C'est quand même plus agréable d'aller prendre votre café après manger en posant les yeux sur un espace vert agréable, etc. Pareil, quand vous allez vous promener dans vos forêts autour de chez vous, et eh bien s'il y a de moins en moins d'incendies, enfin de moins en moins, non, je dis des bêtises là, c'est de plus en plus, mais qu'il y en a quand même, c'est pas, on essaye quand même de faire des choses allant dans le bon sens. Vous savez qu'il y a, arrivé à certaines périodes, il faut absolument tailler les herbes hautes, il faut faire des choses pour éviter le risque d'incendie. Pourquoi ? Parce que le risque d'incendie, bon, là je sors de mon domaine, mais il y a une notion climat et environnement qui se dégrade, ça c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui s'occupent de la protection des bois et tout ça contribuent justement à ce que ça ne devienne pas chaotique de ce côté-là, que l'humain a quand même un rôle direct à jouer là-dessus. Et donc ces métiers-là, ils sont souvent oubliés parce que ce n'est pas des médecins, parce que ce n'est pas des aides-soignants ou des infirmiers, donc du coup ils ne sauvent pas des vies directement, mais ils nous permettent quand même d'avoir des environnements agréables à l'œil, agréable pour s'y promener. N'oubliez pas que si vous avez un coup de mou, allez faire un tour en forêt, vous verrez que vous reviendrez plutôt oxygéné et avec les idées plutôt claires. Et toutes ces choses-là, ben moi, c'est pourquoi je parle de tout ça, parce que souvent, quand les personnes me disent « Théo, j'aimerais bien adopter un style de vie fitness », quand c'est des jeunes, hein, évidemment, qui me disent j'aimerais bien faire attention et tout, et ce sont des personnes qui voilà qui viennent du monde la génération des années 2000 qui sont nés avec un téléphone quasiment dans la main, avec une console de jeu pour meubler les ennuis, et puis avec internet et tout ce qui va avec. Je leur dis pourquoi tu t'orientes pas vers, avant de penser musculation, avant de penser nutrition et tout, pourquoi tu t'orientes pas vers une carrière avec un travail plutôt physique? Donc et je cite, hein, j'avais même fait un long cours, une formation sur mon site, tous les travails fitness que j'avais jugé intéressant, et j'avais mis en fait des idées, parce que beaucoup de personnes, quand ils pensent au travail fitness, ils pensent travailler comme coach ou comme nutritionniste ou comme patron de salle de sport. Et moi, je leur avais dit non, vous avez plein d'autres métiers comme ça, et je leur ai donné, et ça avait vachement plu en fait, parce qu'il y a des gens qui ont même des gens qui étaient en carrière depuis un certain temps, qui ont remis un petit peu en perspective leur future carrière, parce qu'ils ont envie justement d'avoir un lien avec la physique, en fait, enfin pas la physique, le monde physique, le monde de l'activité physique, voilà, pas la physique, pas le terme de la physique, hein, je veux dire le monde de l'activité physique. Ils avaient envie de remettre le pied dedans, et donc ils ont certains, et vous le voyez, il y en a beaucoup, hein, qui partent des métiers un petit peu trop intellectuels au bout de quelques années. Je vous rappelle un livre que j'avais lu, je vous avais recommandé, qui s'appelle L'éloge du carburateur. Je crois que c'était un trader qui est devenu mécano en moto, et il aimait bien ça parce que le matin il avait un problème à résoudre quand on lui amenait la moto, et le soir ou le lendemain quand le propriétaire venait la récupérer, il avait résolu le problème, alors que quand il était dans un travail avec les chiffres, des statistiques et tout, il savait jamais vraiment quand est-ce qu'il commençait son boulot et jamais vraiment quand est-ce qu'il terminait, donc du coup il trouvait pas trop de sens à sa vie et tout ça. Bon bref, donc il y a quand même des remises comme ça en question. Et donc, j'aimerais remettre, moi personnellement, ce côté noblesse par rapport à tous ces travails-là, qui deviennent aujourd'hui des métiers. Dites-vous bien, on fait des vidéos YouTube pour présenter ces métiers aujourd'hui, tellement le grand public ne les connaît pas. J'ai vu une vidéo récemment où on montrait un maréchal ferrant. J'ai vu une autre vidéo où on voyait quelqu'un qui fabriquait des meubles en bois, un menuisier, des meubles, des encadrements de fenêtres et tout ça, qui sont des métiers, pour rappel, moi par exemple, mon grand-père, c'était le métier qu'il faisait. Mon oncle aussi était maréchal ferrant, donc c'est deux métiers qui me viennent en tête, mais j'avais pas besoin de regarder une vidéo YouTube pour comprendre ça en fait. C'était des métiers, et pourtant je suis jeune, hein, c'était des métiers qui étaient relativement connus, entre guillemets, enfin je veux dire, ça aurait intéressé personne de montrer une vidéo là-dessus. Aujourd'hui ça le devient parce que c'est rare, ça intéresse, ça semble difficile, etc. Mais moi je trouve que c'est des métiers à remettre en avant, Et là, la problématique, encore une fois, c'est que malheureusement, ces métiers que je trouve très nobles, ils sont exposés aux pesticides. Alors eux, ils ne sont pas exposés à la sédentarité, le cul vissé sur une chaise, certainement au surpoids et tout, que, enfin, à un degré similaire à ceux qui sont en travail de bureau, à la clim l'été et au chauffage l'hiver. Mais ils ont d'autres problématiques, il ne faut pas les oublier, qui est cette exposition aux pesticides voilà. Vous êtes avertis, c'est pour ça que je vous ai dit, le podcast là, il y a un peu de pessimisme, mais comme d'habitude, il faut... Le fait déjà de connaître les choses, moi je trouve que d'avoir une forme de conscience des choses, ça permet d'avancer en fait. Ça permet d'avancer parce qu'un problème, vous avez bien remarqué, enfin moi en tout cas c'est quelque chose que je remarque, quand on me soumet une réalité qui me montre que c'est problématique, donc je sais pas, n'importe quelle situation, on me dit bah, voilà, tu fais ça depuis un certain temps, voilà les problématiques. Alors au début on se sent un peu perdu, on se dit mince, je suis dans la merde, mais finalement c'est une graine qui est plantée, et cette graine, si elle est suffisamment arrosée ou de temps en temps on y réfléchit un petit peu, et ben à terme naît des solutions. Et puis même dans le comportement, on peut être amené à justement avoir des mécanismes de compensation, de se dire attends, je suis quand même vachement exposé à ça, donc je vais faire attention de ce côté-là. Enfin bon, bref, voilà, vous avez vu où je voulais en venir. Bon, troisième chose, qui est obèse ? Qui est obèse ? Donc c'est un article que j'avais vu, pareil, vous avez les sources dans les notes là. Ils ont fait un petit rapport avec des pourcentages et tout. Donc en fait, qui est obèse en France ? Essayez d'identifier. Bah, un adulte français sur deux, donc 47,3% exactement, donc c'est un peu moins, mais bon, c'est ça, un français sur deux, était en situation de surpoids ou d'obésité. Donc pas obèse, hein, c'est pas, vous avez pas un français sur deux qui est obèse, mais en situation de surpoids ou d'obésité. Voilà, donc surpoids commence à IMC plus, au-dessus de 25, je crois, un truc comme ça. Donc un français sur deux, c'est pas rien. On n'est plus dans le 1 Français sur 3 ou 2 Français sur 5. Non, non. 1 Français sur 2. C'est pas... Enfin, voilà. Donc, on continue. Les femmes sont plus affectées que les hommes. 17,4% de femmes obèses contre 16,7% d'hommes. Alors là, on parle de l'obésité. Mais c'est chez l'homme que l'obésité a le plus progressé. L'obésité sévère y a été multipliée par 3 en 8 ans. Hormis l'Île-de-France, oui, c'est marrant parce que quand on regarde, ils ont fait une carte, vous savez, les cartes avec les départements et tout ça. Et sur cette carte, vous avez les départements à risque qui sont en rouge foncé, et plus c'est rouge clair ou clair tout court, et ben moins il y a de cas. Et vous voyez que l'Île-de-France est entourée de rouge foncé, et il n'y a que l'Île-de-France qui n'est pas ou peu touchée. Donc, hormis l'Île-de-France, l'obésité touche plus les habitants du nord de la Loire que ceux qui vivent au sud. L'obésité touche en 2020, donc voilà, ils sont rapportés sur 2020, 18% des ouvriers, 17,8% des employés, donc des employés de quoi ? De banque, on ne sait pas. 14,4% des professions intermédiaires. C'est quoi des professions intermédiaires ? C'est une profession. Attendez, définition d'une profession intermédiaire. Je serais triste qu'on me dise t'as une profession intermédiaire. Mais intermédiaire de quoi ? Je suis entre qui et quoi ? Donc je tape profession intermédiaire définition. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Profession intermédiaire. En France, le terme de profession intermédiaire fait référence à une catégorie de professions de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles en France de 2003. D'après le site de l'INSEE, cette catégorie regroupe différents métiers considérés intermédiaires entre le cadre et l'employé. Quelques exemples en sont le contremaître, l'infirmier en libéral, le moniteur sportif à son compte, le clergé, les techniciens dont la spécialité diffère de celle de l'entreprise, etc. Mais c'est quoi ce truc ? Profession intermédiaire. Donc je trouve que l'infirmière libérale va être contente de savoir qu'elle a une profession intermédiaire, quoi. Enfin bon, c'est bizarre. Bon bref, en gros, ça veut tout et rien dire. Hein, parce que là, personnellement, ils ont essayé de classer, mais je sais pas pourquoi ils font ce genre de classement. On est content de savoir d'être intermédiaire ou pas intermédiaire, quoi. Enfin, on préfère ne pas l'être, quoi. Donc ça veut dire que, en gros, en bas, t'as les professions de merde, après t'as les intermédiaires où ça va, c'est pas trop de la merde, et au-dessus, ça va, t'as un bon métier, quoi. Mais enfin, on est où, là ? Et puis après, 9,9% des cadres. Donc 9,9% des cadres, donc 10% des cadres sont touchés. Donc on voit bien que, donc en gros, si je résume, les ouvriers, c'est le travail de merde. Hein, voilà, si vous ne le saviez pas, c'est là où vous êtes le plus exposé à être obèse. Après, employés, vous êtes un peu mieux. Mais vous êtes toujours dans la merde puisque vous êtes à 17,8. Après profession intermédiaire, vous commencez à vous émanciper un peu de l'obésité, donc 14,4%. Et les cadres, vous êtes moins touchés. Bref, pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a un fort lien économique et géographique et que plus vous avez d'argent et plus vous avez la possibilité aussi de vous loger dans des quartiers, des lotissements et tout qui sont avec des populations à meilleurs revenus où la tranquillité y est plus importante, etc., etc. Moins vous êtes exposé à l'obésité. Pourquoi ? Parce qu'il y a, alors, un, manger mal coûte moins cher que manger bien. Deux, les industriels, la restauration rapide et tout, implantent ces fast-foods dans les endroits où les revenus sont les plus bas. Donc du coup, vous allez être moins... Si vous, par exemple, vous travaillez à Paris, mais vous avez une maison en campagne ou en banlieue un peu chicose dans les alentours, eh ben, vous aurez moins de chances de tomber sur un kebab ou un McDo ou un truc comme ça que si vous habitez dans des quartiers populaires. Donc c'est une réalité, c'est comme ça. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la géographie du surpoids. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est comme ça. Donc bon, bref, on voit bien que l'obésité touche malheureusement les plus bas revenus. Mais je suis assez surpris que ce soit les femmes qui soient plus affectées que les hommes. J'aurais dit l'inverse. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Mais par contre, chez les hommes, ça a fortement augmenté, multiplié par 3 ces 8 dernières années. Donc, c'est bon pour personne. Hein. Mais rappelez-vous d'un chiffre, 1 Français sur 2. 1 Français sur 2 est touché soit par le surpoids, soit par l'obésité. 1 Français sur 2. On n'est pas là. N'oubliez pas que le surpoids et l'obésité, c'est un gros risque pour les maladies métaboliques. Et je le répète encore une fois, à quel moment vous voyez des publicités avant vos vidéos YouTube du gouvernement qui vous parle du surpoids et de l'obésité. Je dis ça gentiment parce qu'en ce moment, on a des pubs pour tout et rien, sur l'alcool, sur machin et tout ça, faites par le gouvernement, mais on n'a pas de pour le surpoids et l'obésité. Qui, enfin, un Français sur deux, c'est pas genre un Français sur 1000, quoi, ou un Français sur 100, ou un Français sur 2, là, c'est pas rien. Enfin bon, après, je vais pas être trop émotionnel. Mais il y a quand même un côté. Enfin, faut pas. Alors, vous inquiétez pas, le jour où il y aura un réel traitement pour l'obésité, vous aurez des pubs. Question d'auditeur. Allez, on passe sur un sujet un petit peu plus sympa. Question de l'auditeur. Ma question concerne la relance de la motivation. Bon. Mais alors, je cite, hein, je vais boire un coup parce que là, j'ai un peu soif. Il fait chaud, là. Il fait combien chez moi, là ? Attendez, je me lève, je regarde. Ah, il fait 28 degrés. 28 degrés, donc vous voyez, moi je suis sédentaire, j'ai le cul sur une chaise pour travailler. Par contre, j'ai pas la température qui va bien, quoi. Je bois un coup et on reprend la question. Alors, l'auditeur me dit... Alors, je passe toutes les formules de politesse et tout, parce que justement, cette personne-là avait dit « on te dit pas souvent merci, on te dit pas souvent bonjour, etc. » dans les trucs. Donc, merci à toi pour m'avoir mis tout ça. Enfin, c'est preuve de respect. Enfin, voilà. C'est gentil. Mais, j'ai pas tout mis dans la question, enfin, parce que ton mail était quand même assez grand. Donc, je pars à partir de la question. Ma question concerne la relance de motivation, mais pas pour n'importe qui. On parle souvent de motivation, de clés, de déclic pour lancer des personnes non sportives dans le sport. Mais peut-on parler des personnes qui sont déjà sportives et qui doivent se remotiver après une période de pause ? Si je prends mon cas en exemple pour approfondir ma question, tout au long de l'année, je suis carré en termes d'entraînement, 4 fois par semaine plus une fois du cardio. Donc 4 muscu par semaine et une fois du cardio, j'en loupe aucune. Diète carrée toute la semaine, avec ce fameux repas plaisir une fois par semaine, je suis dans ma bulle d'activité, dans ma routine sportive, et arrivé aux fêtes de fin d'année, ma bulle est éclatée et remplacée par une autre très rapidement avec moins de sport, plus d'écart alimentaire, et le début d'année est toujours difficile à retourner dans ma routine de super sportif. Je me reconnais plus. Chaque début d'année est le même problème. As-tu des conseils pour relancer la routine, la motivation pour un sportif afin de retourner au mieux dans sa routine précédente, de ne pas perdurer dans la bulle plus confortable des fêtes de fin d'année, des vacances d'été, etc. Parce qu'il me disait ça, il dit que ça fonctionne aussi pour les vacances d'été et tout. Eh bien, en fait, ta question est intéressante et à la fois... Tu sais, les gens pensent que quand on est sportif, c'est plus simple de se remotiver que quand on ne l'est pas. Moi, je ne pense pas que ça soit la réalité pour deux raisons. Deux raisons, en fait, qui viennent se contredire. La première étant que le débutant, celui qui n'a jamais fait de sport, rappelez-vous, à vos débuts. Oui, j'ai voulu parler trop vite, j'ai fait une fusion entre deux mots. Donc, les gens, à leur début, ils pensent qu'ils font quelques pompes, quelques tractions et quelques abdos, ils vont être en forme. Donc, il y a une forme de naïveté qu'on a tous plus ou moins partagée, moi le premier, où on pense qu'il suffit d'aller un peu en salle, de lever des haltères pour avoir un bon corps assez rapidement. Donc, il y a cette naïveté, et heureusement qu'elle est présente, cette naïveté, sinon, s'ils connaissaient les gens la réalité de l'intensité, de la nutrition et toutes ces choses-là, de la discipline qu'il faut avoir, ils n'y vont pas. Et en fait, ceux qui résistent, un petit peu comme des résistants, hein, c'est ceux qui arrivent à trouver du plaisir dans cette forme de routine qui peut-être discipline leur vie ou peut-être donne un sens tout simplement à leur vie, de le fait d'être assidu dans une pratique parce que c'était plutôt chaotique le reste du temps avant qu'ils démarrent la muscu ou avant qu'ils démarrent leur activité sportive. Et en fait, ça leur a amené une forme de discipline, estime de soi, etc. Et donc, du coup, ils persévèrent. Mais il y en a plein qui pètent en plein vol. Enfin, les salles de sport, c'est un abonnement d'un mois, un abonnement d'un an, une présence de maximum 3 mois. Hein, c'est ça la moyenne. Et encore, peut-être que je suis optimiste. Mais bon, donc pour les nouveaux, donc les débutants, je trouve que c'est beaucoup plus simple de les motiver parce que, étant donné qu'ils ont une grande naïveté, il suffit qu'un régime minceur ou qu'une pilule machin ou une pub avec un athlète avec des abdos recommande tel ou tel programme. Ça prend assez facilement. Par contre, le pratiquant avancé, celui qui pratique depuis un certain nombre d'années, c'est plus compliqué parce que lui, on ne le fait plus à l'envers. Lui, il a compris que ce n'est pas en 20 séances de bras qu'on va avoir des bras, mais que ça prend sur le long terme, que les abdos, ben malheureusement, si on ne combine pas l'activité physique plus... la nutrition, on n'arrive pas à avoir des bons abdos. Et tout ce qui tenait pour le débutant, où le débutant, on lui disait « ça sert à rien de faire des crunchs pour avoir des abdos, il suffit de faire ci, ça sert à rien de faire des abdos pour avoir des abdos, mais il faut faire la diète », toutes ces choses-là, chez le pratiquant avancé, ça s'effondre, parce que le pratiquant avancé, il s'est bien rendu compte qu'au plus sec de sa vie, il n'avait pas d'abdos s'il ne les avait pas bossés. Et il avait une feuille musculaire tellement fine que ça se voyait pas, sauf s'il contractait, mais il avait pas de relief, donc il avait pas des bons abdos, donc il s'est dit, merde, j'ai fait la diète, mais ça a pas marché, moi, pour avoir des abdos, il me fallait aussi les entraîner suffisamment, quoi. Donc, cette naïveté disparaît avec le pratiquant avancé, et donc, du coup, la motivation à revenir n'est pas forcément, on peut pas appuyer sur le levier de résultats rapides. Par contre, peut-être que, moi, je trouve, hein, que ce qui est motivant durant ces périodes-là, la première chose déjà, c'est de ne pas arrêter les efforts physiques. C'est-à-dire que, bon, on peut prendre une pause, on part en vacances, 15 jours, on peut arrêter de s'entraîner, mais en muscu, mais de rester dans de cette philosophie de fitness, qu'elle s'étende non pas qu'aux haltères, aux machines et tout ça, mais qu'elle s'étende. C'est-à-dire que, par exemple, 80% des pratiquants de muscu, et je cite un site complètement arbitraire, mais bon, globalement, quand vous en parlez autour de vous, c'est le cas, c'est comme ça que ça se passe, très peu de personnes font des étirements. Bon, ils font leur muscu, ils font leur cardio, mais assez peu font des étirements. Dans une routine fitness, par exemple, on pourrait se dire, je pars 15 jours en vacances, je vais pas faire de la muscu, c'est bon, je me suis entraîné déjà, je pars 2 semaines en vacances, donc 50 semaines de l'année, je me suis fait ma muscu, et 2 semaines, j'en fais pas. Mais dans une routine fitness, on pourrait se dire que les étirements en font partie, et donc du coup, de mettre des étirements durant ces 15 jours de vacances, ça va pas vous taxer nerveusement ni rien, mais on reste dans cette philosophie fitness, on continue à agir au quotidien, à faire un petit truc qui va dans le sens de ça, ou alors du yoga, ou alors, je sais pas, une autre pratique, ou alors tout simplement sur les lieux de vacances, on fait une activité à côté, il y a des chevaux, on fait du cheval, il y a un terrain de golf, on fait du golf, j'ai cité quand même des deux activités de riche là, hein. Mais bon, il y a de la randonnée, il y a toujours des activités à côté des lieux de vacances, la rivière, la montagne, le kayak, le canoë, le rafting, le hot dog. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le hot dog? Moi, j'en ai fait à Briançon. du hot dog, c'est un mélange de rafting et de canoë. Donc en fait, c'est un canoë en matière rafting. Et donc j'avais fait des gorges de... C'est quoi là-bas ? Rappelez-moi le mot en commentaire, je me rappelle plus des gorges qu'il y a à Briançon. Assez solide hein, en termes de rapide et tout, et assez chaotique. Et j'avais fait les gorges comme ça, en, une bonne descente en hot dog. C'était sympa. J'ai même des photos de moi un peu joufflu à cette époque-là. Je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a toujours des activités. Donc la première chose, c'est que durant ces périodes justement où toi tu me racontes que ton style de vie se modifie en fait, t'es c'est un peu comme le pile ou face du Joker, t'as la face grise, claire, brillante, bien nettoyée, et puis t'as la face noire, brûlée, chaotique et tout ça. Et ben en fait, faut pas avoir de face noire si tu veux. Si tu veux, quand on a un mode de vie qui est tellement en décalage comme ça, c'est qu'on ne sait pas que c'est possible d'avoir toujours des bons réflexes, même quand on fait mal. Je m'explique. Quand t'es en vacances ou quand t'es en vacances de fête de fin d'année ou vacances d'été, souvent les gens, c'est blanc ou noir. Je ne peux pas faire ma muscu, je ne peux pas manger diète, alors je vais manger mal et pas faire de sport. Non, on peut très bien, durant les vacances, manger mal, mais par exemple avoir des activités, de loisirs et tout, et pas s'en priver parce qu'on mange mal. Donc, et ça permet de garder un pied dans ces routines-là. Après, la deuxième chose pour se remotiver, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que tu as passé peut-être un an à faire des programmes similaires, à manger de manière similaire et tout ça. Il est peut-être temps, par exemple, durant la fin de tes vacances, de recréer du désir. Donc le désir se recrée parce que tu vas consulter des contenus sur le fitness, que tu vas lire des études, si tu lis des études, ou des magazines, ou peu importe. Tu peux, par exemple, quand tu es en vacances, te dire « je fais pas de muscu, mais par contre, je vais acheter une revue sur le fitness » ou des choses comme ça, pour recréer du désir. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ou par exemple, un livre sur la muscu, tu achètes un des livres sur de l'anatomie, les deux leviers, les machins, enfin bon bref, n'importe quel livre qui pourrait te tenter, de préférence sur des méthodes que tu connais pas forcément. Et tu le lis durant tes vacances, ta lecture du soir, ou ta lecture en bronzette ou autre, mais sans pratiquer. C'est ça qui est important, il faut pas que tu pratiques pendant que tu lis, parce qu'en fait, le fait de pratiquer, ça va pas être dans les bonnes conditions. Faut que la lecture te crée du désir que tu ne vas pas satisfaire immédiatement. C'est-à-dire que si tu lis quelque chose, par exemple, sur les kettlebells, avec un entraînement qui te paraît intéressant pour tes routines, n'en fais pas tout de suite. Alors à la limite, tu peux aller acheter le kettlebell. Mais n'en fais pas tout de suite. Attends de reprendre l'entraînement pour le faire, de faire renaître le désir. Parce que en faisant renaître ce désir-là, donc par exemple, ça peut aussi marcher pour la nutrition, hein, de lire un bouquin sur la nutrition. L'entraînement, c'est quand même mieux, je trouve, parce que c'est plus facile de passer à l'action. Enfin, après, chacun, voilà. Mais c'est quand même plus difficile de se dire, allez, je reprends la bagnole, je reviens à la salle, je me refais souffrir et tout ça. Donc, laisse naître le désir en lisant des magazines, en écoutant, par exemple, je sais pas, les contenus que je fais, les cours que je fais, hein, pour les VIP, si t'es VIP. Si tu l'es pas, bon voilà, je te force pas la main, hein, c'est pas le but, mais voilà, ça peut être une idée aussi de t'instruire en fait, d'apprendre des nouvelles choses, mais sans les pratiquer durant tes vacances, de laisser juste, comme je disais tout à l'heure, ces formes de graines germer et de faire naître ce que j'appelle moi le désir, mais le désir qu'on ne récompense pas immédiatement, enfin qu'on ne comble pas immédiatement. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Quand je suis en vacances, typiquement, je ne fais des activités récréative, sportive ou ce que vous voulez, totalement autre du fitness. Des fois, je fais quelques pompes et tout ça quand j'ai mes petites routines, mes petits circuits, mais souvent, ce qui domine, ça va être des activités liées au lieu où je me trouve. La nage, les promenades, les visites, les machins, où voilà, je vais bouger dans ce sens-là. Mais j'aime bien lire sur le fitness des bouquins, des biographies, où ça parle un peu d'athlètes, parce que ça crée un désir où je me dis « Ah, moi, j'ai envie de m'entraîner là. J'ai envie de m'entraîner, mais je vais pas le faire. » Je vais pas le faire parce que cette envie, elle va pas disparaître. Elle va être, et du coup, le lundi où je vais reprendre l'entraînement en revenant de vacances, cette motivation sera bien présente. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu ne peux plus agir sur des leviers de naïveté. Tu dois agir sur des leviers autres que la naïveté. Et tu pratiques le fitness depuis un certain temps, le désir tu l'as, sauf qu'il s'éteint un peu durant cette période, parce que vu que pendant cette période tu fais tout l'inverse de ce que tu fais durant l'année, t'as une tendance à démoraliser et dire à quoi bon reprendre vu le merdier que j'ai foutu pendant 15 jours de vacances. Ce qui est faux en fait, tes vacances tu les mérites, tout le monde mérite de partir en vacances, de manger ce qu'il veut, enfin voilà, je veux dire, qui plus qu'un sportif mérite quand même de prendre 2 semaines de repos où il se détend, où il se fait plaisir, enfin à un moment donné faut pas devenir non plus parano. Et donc du coup, ta motivation création va renaître de ça et de la nouveauté. C'est-à-dire que tu vas dire, bon, bah, je vais commencer à écrire sur un bout de papier pendant mes vacances, peut-être le nouveau programme d'entraînement que je vais faire, ma nouvelle routine. Bah, tiens, j'ai un point faible musculaire là, je m'en suis jamais occupé. Donc là, maintenant, ça va être sur le lundi et le jeudi, ça va être consacré à mon point faible. Et après, je vais tester aussi ça comme nouvel équipement. Ou alors, je vais commencer à construire mon home gym. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais nouveau programme, une approche diététique, il faut pas se faire trop violence non plus en revenant de vacances, sauf si vous avez la motivation pour et que vous avez pris beaucoup de poids, mais sinon, faut pas se faire violence, faut revenir aux aliments sains, à ses habitudes de vie et tout ça, voilà. Mais préparez-le, ça. Si vous sentez que vous avez du mal à revenir dans votre diète carrée et votre entraînement, c'est peut-être aussi que vous êtes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que ce que vous faisiez comme entraînement et tout, c'est arrivé à la fin. Vous n'avez pas envie de repartir là-dessus parce que pour vous, vous avez l'impression de revenir en arrière. Donc vous avez besoin de progresser, de créer, de vous repencher un peu sur vos entraînements. C'est pour ça que je vous ai proposé des tas de vidéos à la réouverture des salles sur l'anatomie par groupe musculaire pour justement que ça soit pectoraux, ischios, fessiers, quadriceps, mollets, etc., même jusqu'aux avant-bras, de vous donner tous les exercices pour cibler telle ou telle zone, mais également un programme pour, si vous l'avez en point faible, pour essayer de forcer un peu son développement. Ce genre de pratique-là, en fait, je les trouve saines parce que vous n'êtes plus naïf, c'est terminé. On ne peut plus vous hameçonner avec de la naïveté. Voilà. Donc, on ne peut pas vous dire des abdos en 6 semaines avec le régime X ou le programme Y. Non, ça, c'est mort. Vous avez une conscience de votre niveau de progression, de vos capacités de progression, de votre vitesse de progression. Et ce n'est pas sur ce genre de levier qu'il faut appuyer. Les bons leviers, c'est le désir. Le désir que vous avez au fond de vous, mais vous avez du mal à aller le chercher quand vous êtes dans ces périodes de fête et tout. Mais c'est normal. Comme je vous dis, c'est normal parce que ce que vous faites comme activité durant ces périodes est tellement à l'opposé de ce que vous faites durant l'année que ça a tendance un peu à vous démoraliser. Mais non, vous le méritez et c'est nécessaire pour votre équilibre mental de profiter des fêtes. Enfin, je veux dire, les fêtes, que ce soit les fêtes de fin d'année ou les... Je veux dire, quel est le sens de la vie si on ne peut pas faire des grillades entre amis, quoi ? En plein été, faire ses grillades, sa salade de riz, j'en sais rien... son dessert, sa sieste ou sa bronzette, et puis prendre un goûter, boire un peu d'alcool si pour ceux qui boivent. Enfin, je veux dire, la vie, c'est ça aussi. Hein, et ne pas s'en priver, je pense que c'est pas une bonne solution. Quoi. Enfin bon, moi, personnellement, je ne pourrais pas me priver des plaisirs comme ça entre amis et tout ça durant les fêtes. Mais il faut voir aussi le parallèle. Est-ce que ta culpabilité augmente durant les vacances? Et ça, il faut que tu arrives à le corriger parce que tu n'as pas de raison de culpabiliser. Et souvent, l'empêchement du retour, c'est parce qu'on a l'impression d'avoir complètement déconné, d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir 20 kilos à perdre, alors que c'est pas le cas. Alors que le physique, il s'est juste un peu ramolli. C'est normal, on stocke un peu moins de glycogène, on fait un peu plus de rétention d'eau, on a peut-être pris un peu de gras. Ou alors, pour ceux qui perdent facilement du poids, on a perdu un peu de masse musculaire. Mais tout ça va revenir beaucoup plus vite que si vous deviez démarrer de zéro. Donc il faut vraiment se faire confiance de ce côté-là, mais surtout garde bien en tête ça, pour au moins l'auditeur qui m'a posé la question, fabrique du désir et ne l'assouvis pas immédiatement. C'est-à-dire, tu pars en vacances dans ton sac, je te dis, va dans la bibliothèque fitness d'Amazon ou autre, et regarde des livres qui te botteraient, quoi, ou même mieux, va sur Vinted ou sur Le Bon Coin, parce que tu les auras d'occasion et en lot, tu peux trouver des lots pas chers. Et puis en occasion, j'aime bien, moi, parce qu'il y a un côté écolo et un côté... j'aime bien quand les livres ont vécu, en fait. Et donc, du coup, tu peux te faire une petite bibliothèque comme ça, tu les mets dans ton sac de voyage, et puis tu bouquines, ça sera ta lecture du soir, ou ta lecture de comme je disais tout à l'heure, de bord de piscine, de bord de mer, de bord de rivière, ou de montagne, hein, si tu vas à la montagne. Et donc du coup, ce désir va te suivre en fait, il va te suivre et tu auras envie de l'assouvir, il sera assouvi quand tu retourneras à la salle ou dans ton home gym à ton retour. Voilà. Allez, je vous laisse ici parce que là je parle trop dans les podcasts, vous le savez. Si vous avez envie de contenu, travailler avec des références et tout ça, basculez en VIP. Si vous aimez les podcasts, de toute façon, vous adorerez l'espace VIP puisque c'est du discours comme ça, mais sur des thèmes beaucoup plus précis, avec des concepts plus appuyés, avec justement des clés à appliquer en fin de cours, de vidéos à chaque fois, pour justement grappiller de la progression dans un monde qui a tendance quand même à aller un peu dans l'autre sens que le fitness. Hein. Donc mon travail, en fait, comme je le dis souvent, y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi t'as pas plus de vues sur YouTube et tout ça. Bah, tu sais, il y a un vent. Moi, je suis un petit peu comme le je sais pas, je vais reprendre l'analogie avec le canoë ou le hot dog. Si t'as déjà fait du kayak, tu sais que tu te retournes là, donc à contre-courant, et tu pagaies, et tu verras que c'est hyper dur de remonter la rivière à la force des bras, que le courant de la rivière, même s'il est assez mince, pas très puissant, t'as pas l'impression qu'il est très puissant, bah, quand toute la rivière va dans un sens et que toi t'essayes de le remonter, c'est très compliqué. Donc c'est un petit peu ça, moi, sur les réseaux sociaux, c'est que je reste plus ou moins sur ma ligne, et que malheureusement, sans suivre le courant, ça plaît pas trop, quoi. Mais bon, je préfère continuer à parler, à rester sur ma ligne, justement. Et comme vous le savez, mon travail, c'est pas d'avoir des vues sur YouTube, mon travail, c'est d'avoir des abonnés sur mon site. Voilà, c'est ça qui... Moi, je travaille pour les personnes qui sont intéressées par la connaissance, pas par le buzz, le drama et toutes ces choses-là, qui est un travail à temps plein aussi, j'imagine. Mais moi, j'ai pas le temps de faire ça, et ça m'intéresse pas. J'ai pas la personnalité pour faire ce genre de choses. Ça n'est pas... Enfin, voilà, intrinsèquement, je ne suis pas fait pour ça. Donc, du coup, vous ne pourrez pas me voir dans ce genre de contenu. Et d'ailleurs, je vous invite à vous désabonner si vous en attendiez de ma part, de ce genre de choses. Mais voilà, moi, je reste sur ma ligne, apprentissage, progression, information, etc. Et non divertissement. Voilà, donc c'est dit. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, et on se retrouve tout de suite en description si vous voulez basculer sur les autres contenus. Sinon, pour le futur podcast, la semaine prochaine. Bye.